pile midi et demi temps universel, 13h30, Anne Jamenam, toute l'actualité africaine. Avec vous Nicolas Brousse, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Unité et fermeté, les deux mots-clés du discours prononcé hier par le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Il promet la tolérance zéro pour ceux qui chercheraient à semer la division, nous l'entendrons. Wagner, c'est officiellement fini, mais pas la présence paramilitaire russe sur le continent, puisqu'Africa Corps prend le relais, un groupe plus étroitement lié au Kremlin. À suivre également au Togo les excuses qui étonnent son avocat du rappeur Abron. Il dit avoir eu des troubles psychiatriques pour expliquer ses comportements outrageants envers le président du Conseil Fornia Simbé. Nous irons également en RDC où la société civile se mobilise pour la paix au sud Kivu et au Gabon où une grande opération de déguerpissement a du mal à passer à Libreville. Afrique Midi, le grand journal Afrique, bienvenue, on tourne ensemble la première page. La grande majorité des Sénégalais fête aujourd'hui la Tabaski, une exception alors qu'ailleurs ont célébré cette fête du mouton hier, comme au Tchad, où pour l'occasion, le président Mahamat Idriss Déby a prononcé un discours devant les responsables religieux. S'il ne cite pas l'opposant Succès Masra, ancien premier ministre qui est en détention, inculpé notamment pour incitation à la haine et à la révolte, et constitution et complicité de bandes organisées, le chef de l'État tchadien appelle la population à rester soudée et menace tous ceux qui chercherait à semer la division, parlant même de tolérance zéro.
Malheureusement, certains profitent de nos différences, qui sont d'ailleurs naturelles dans la composition de toute société humaine, pour semer la haine et cultiver la division afin de satisfaire des desseins égoïstes personnels, propres ou partisans. Notre pays a passé de l'État néant à une nation unie, souveraine. Ces acquis sont à conserver et à consolider par tous les moyens. Tolérance zéro et fermeté absolue envers ceux qui compromettent la cohabitation pacifique, la paix sociale, l'unité nationale et l'intégrité territoriale.
Extrait du discours du président tchadien. Au Mali, après 3 ans et demi de présence, c'est officiel, le groupe paramilitaire russe Wagner s'en va, mais d'autres mercenaires les remplacent sous la bannière Africa Corps, un autre groupe paramilitaire russe, dont les liens avec le pouvoir de Moscou sont encore plus serrés. Détail avec notre correspondant régional Serge Daniel.
À Bamako, dans les milieux officiels, aucune des sources contactées par nos soins ne confirme ou n'infirme le départ annoncé des mercenaires russes du groupe Wagner. On le sait, la junte malienne a toujours nié la présence de ces mercenaires sur son territoire, préférant le terme de présence d'instructeurs russes. Côté Wagner, le départ du Mali de ses troupes est annoncé après un peu plus de 3 ans de présence. La relève sera assurée par une autre structure, Africa Corps. C'est une organisation également paramilitaire russe, assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Composée d'ex-Wagner et surtout de nouvelles recrues, Africa Corps est plutôt étroitement contrôlée par le ministère russe de la Défense. C'est un peu un changement quand on se souvient que Wagner était fermement dirigé par Evgeny Prigogine, certes proche du Kremlin, mais forte tête avant sa mort dans un accident d'avion en 2023. En quittant le Mali, Wagner dresse un bilan très élogieux de sa présence. Autre son de cloche, si la présence de Wagner a permis de reprendre des mains des rebelles à la ville de Kidal, la sécurité n'est pas revenue sur une grande partie du territoire national. En plus, Wagner a été accusé des actions sur les populations civiles par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Dossier suivi par Serge Daniel. Au Togo, il avait été emmené par les gendarmes le 26 mai au soir alors qu'il se trouvait chez lui en famille. Le rappeur Abron est apparu hier dans une vidéo publiée sur le réseau TikTok dans laquelle il explique avoir eu des troubles psychiatriques. Il présente dans la foulée ses excuses au président du Conseil, Fornia Simbé, pour, selon ses termes, ses comportements outrageux. Mais pour l'avocat de ce rappeur connu pour ses critiques envers le pouvoir togolais, cette vidéo a été réalisée sous contrainte. Alors précise-t-il qu'aucune procédure judiciaire n'est enclenchée contre lui pour le moment. Célestin Agbogan précise que son client a été emmené à l'hôpital psychiatrique de Zébé près d'Anéo, à quelques kilomètres du Bénin.
Cette interview, cette vidéo-là, je ne crois pas, moi je doute fort, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais à mon analyse personnelle, ces déclarations-là ne sont pas libres. Il ne l'a pas fait sans contrainte. C'est ce que nous disons. Parce que là, on dit quelqu'un qui est affecté mentalement, Et quelques jours après, cette même personne, comme par miracle, il vient et il parle comme quelqu'un qui n'a jamais été malade, quelqu'un qui est à l'aise et qui parle et qui raisonne. Nous, nous dénonçons quand même la manière dont il a été interpellé et la manière dont il a été traité. Ça ne peut pas se passer comme ça dans un État qui se dit moderne, un État de droit. Non, quel que soit le cas qu'on lui reproche des propos malveillants à l'encontre du chef de l'État, ce n'est pas de cette manière qui devait être interpellé. Aucun de ces droits n'a été respecté. On l'a pris comme ça et puis le procureur n'était pas informé. C'est après qu'on a produit un rapport pour informer le procureur de la République.
Au Niger, ce samedi, cela fait un mois que les trois journalistes de Sahara FM ont été interpellés par les autorités, arrêtés une première fois à Agadez. Ils avaient été relâchés sur décision de justice avant d'être de nouveau rapidement interpellés et cette fois transférés à Niamey, où ils sont toujours en garde à vue. Eva Massi, le directeur de leur médias a pu enfin avoir de leurs nouvelles hier.
Arrêtés deux fois en quelques jours, les trois journalistes de Sahara FM, dont une femme, sont en garde à vue depuis bientôt un mois. Ce vendredi, Ibrahim Diallo, le promoteur d'Air Info Agadez et Sahara FM, a pu leur rendre visite.
Ils sont très bien traités à la gendarmerie, ils n'ont aucun problème, mais c'est seulement l'incertitude de ce qui va leur arriver. Ils n'ont pas été présentés devant le juge depuis Agadez. Aucun interrogatoire ne leur a été fait. C'est une longue attente. Un mois, 30 jours, c'est trop pour une interpellation, pour une garde à vue. Donc ils attendent dans l'anxiété, comme on l'a dit.
Les trois journalistes avaient relayé une information du site LSI Africa, selon laquelle la Russie et le Niger pourraient mettre fin à leur coopération sécuritaire. Le chef du bureau Afrique de la Fédération internationale des journalistes, Louis Tomasi, appelle les autorités de Niamey à libérer les trois journalistes sans condition.
Il s'agit de harcèlement et d'intimidation. Ils cherchent à envoyer un signal à tous les autres journalistes. Même certains journalistes que nous connaissons évitent de nous envoyer des informations impliquant directement le régime. Nous appelons donc les autorités à respecter les libertés fondamentales.
L'association nigérienne de lutte contre la corruption a elle aussi dénoncé l'arrestation de Hamid Mahmoud, Massaouda Jaharou et Mahaman Sani en appelant à leur libération.
Eva Massi, inquiétude pour la liberté de la presse également en RDC, celle de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, après la décision du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a en effet décidé cette semaine de suspendre à titre conservatoire la médiatisation des activités du parti politique de Joseph Kabila, le PPRD, et de ses membres pour une durée de 3 mois. L'UNPC dénonce par la voix de son président Kamanda Wakamanda Muzembe une censure qui ne dit pas son nom.
On demande au CESAC de rester dans ses prérogatives et non d'empiéter sur l'autorégulation que nous nous représentons. Ce n'est pas de son ressort d'empêcher la médiatisation des activités d'un parti politique parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui peut prendre des décisions administratives quand il y a une dérive dans le comportement d'un parti politique. Il y a aussi la justice qui a ses prérogatives et qui doit prendre une décision. C'est pas au CESAC de décider comme ça en lieu et place de ceux qui ont dans leur rôle le prérogatif de sanctionner un parti politique ou sanctionner des acteurs politiques. Bon, c'est une censure qui ne dit pas son nom, mais c'est une façon d'interdire de parler. Il faut couvrir les activités de tous les partis politiques, mais on ne va pas faire leur propagande. Les journalistes doivent respecter l'éthique et la déontologie. C'est ça, on veut absolument que chacun joue son rôle.
Pendant ce temps, dans l'est de la RDC, trois organisations de la société civile, Open Peace, DRC, l'ICAF, l'Initiative communautaire pour l'appui à la femme en Afrique, et le Centre africain des recherches sur les dynamiques des conflits, ont lancé hier à Bukavu une campagne de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale pour la prévention des conflits dans la province du Sud-Kivu. Dossier suivi par Amélie Tulé.
Les organisateurs ont rassemblé dans un hôtel du centre-ville les chefs de quartier ainsi que les leaders communautaires et politiques de Bukavu. Les trois organisations de la société civile à l'initiative de cette campagne de sensibilisation veulent organiser des groupes de parole à partir de lundi dans les différents secteurs de la ville. Pour Albert Migabo Niagaza, qui coordonne la synergie des chefs des quartiers de Bukavu, il y a urgence.
Je déplore qu'un bandit qui a été tué, malheureusement, après avoir brûlé ces derniers, la population en colère a consommé la viande de leurs frères. Raison pour laquelle je pense que nous devons beaucoup, beaucoup encore parler de la cohésion sociale, de la paix dans nos entités. Sinon, tout peut être chambardé. C'est grave, raison pour laquelle il faudrait qu'on parle franchement de la cohésion sociale.
Bukavu accueille de nombreux déplacés qui ont fui les combats lors de l'avancée du M23 dans les différents villages du Nord et du Sud Kivu. Les trois ONG veulent prêcher la tolérance interethnique et la communication non violente. Claudine Biamungu Nandjouchi est la coordinatrice de Hope and Peace DRC.
Nous avons un programme d'éducation à la paix et à la cohésion sociale qui va durer 5 ans. Et nous voulons un changement pour que chaque communauté se sente à l'aise de vivre avec l'autre. La paix et la cohésion sociale, c'est un changement de comportement. C'est possible.
Après le Sud Kivu, cette campagne doit s'étendre à deux autres provinces, celle du Nord Kivu et de l'Ituri.
Amélie Tulé, au Gabon, les autorités expliquent que l'opération de déguerpissement lancée jeudi dans plusieurs quartiers de Libreville doit permettre d'améliorer la vie des habitants et notamment prévenir les inondations. Mais cela se fait dans la douleur. Alors que les pelleteuses font de la place pour une future cité administrative et un boulevard dit boulevard de la transition, plusieurs familles dont le logement a été démoli dorment à la Belle Étoile. Elles ont pourtant été indemnisées, promet l'État qui fait face à leur colère. Reportage à Libreville d'Yves Laurent Goma.
Suzanne est inconsolable. En quelques minutes, une tractopelle a écrasé sa maison où elle vivait depuis 15 ans. Au sol, il reste un amas de béton, planches et tôle.
Ça a 15 heures que la gendarme est venue nous dire de libérer les maisons. On était obligé d'abandonner certains effets dans la maison.
Ça me fait pleurer. Je suis née ici, j'ai grandi ici. C'est normal en fait. C'est normal de pleurer.
On ne refuse pas de partir, on ne refuse pas de quitter le quartier. On veut juste les mesures d'accompagnement.
Patrice Ngemavé, 60 ans, a perdu plusieurs maisons qu'il faisait louer à des commerçants.
Mon cœur est meurtri. Et mes enfants, et mes petits-enfants. Que vais-je faire?
L'administration soutient que tout le monde a été indemnisé. Faux rétorquent les victimes.
Il n'y a aucune liste qui prouve que les gens qu'on démolit actuellement ont tous été indemnisés.
C'est catastrophique. Et nous implorons la magnanimité du chef de l'État.
Les mêmes bulldozers qu'on a envoyés ici pour détruire nos maisons, ils peuvent prendre ces bulldozers, terrasser une forêt et attribuer à tout un chacun 20 mètres carrés. C'est le minimum.
Face aux critiques, Laurence Ndan, ministre porte-parole du gouvernement, a expliqué pourquoi ces casses.
Cette opération a pour ambition de réduire de manière significative les embouteillages, les inondations et de lutter contre le mal logement.
D'autres quartiers seront aussi concernés, a averti le ministre. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et comme en matière d'inondation aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Lundi s'ouvre la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, un rendez-vous que vous fera vivre RFI avec une importante équipe dépêchée à Nice. La ville accueille d'ores et déjà aujourd'hui le sommet Ocean Rise and Coastal Resilience, une conférence sur la montée des océans et la résilience des territoires côtiers, l'occasion de lancer une coalition des villes et des régions côtières qui sera hébergée par un organe des Nations Unies à Nice. Objectif, faire le pont entre les scientifiques et les élus locaux pour partager les connaissances, mais aussi trouver des financements adaptés. Parmi les adhérents, Jean-Louis Moulot, maire de la ville ivoirienne de Grand Bassam. Sa cité balnéaire est concernée au premier chef par l'érosion côtière, liée entre autres à la montée des eaux causée par le réchauffement climatique.
La réduction de notre littoral. Nous avons connu des raz-de-marée importants il y a 2-3 ans qui ont emporté près de 20 mètres de côte. Sur le long terme, c'est vraiment la survie d'une partie de notre territoire qui est en question. Nous avons défini un cadre qui nous permet donc de fédérer les initiatives et les actions. Des actions de planting de mangroves, des actions de sensibilisation pour les préserver, des actions également de production de charbon végétal, charbon bio, qui nous permet donc d'éviter la coupe des mangroves pour en faire du bois de chauffe. Nous avons bénéficié également de travaux d'envergure chiffrés à près de 30 millions d'euros de la part de l'État de Côte d'Ivoire qui nous ont permis de créer une communication entre la lagune et la mer et également de créer une digue qui permet de protéger le littoral. Il y a une dynamique et nous restons ouverts évidemment à l'occasion des premières rencontres, des premiers échanges que nous avons eu hier avec des élus d'autres pays. Nous avons pu échanger sur les solutions qui ont été mises en œuvre sur d'autres territoires et qui ont produit des résultats probants. Et donc c'est une occasion d'échange de bonnes pratiques et d'expériences face à ce défi partagé.
Propos recueillis à Nice par Pauline Glaise. La page sport avec à la une la deuxième journée de match de classement pour les phases finales de la BAL, la Basketball Africa League. Ce week-end à l'Arena de Pretoria en Afrique d'Afrique du Sud, 8 équipes sont en lice et parmi ses prétendants, la surprise Creole Star, une organisation à but social créée il y a 10 ans par les frères Almeida et qui se retrouve premier club capverdien à ce niveau de la compétition. Confirmation avec à Pretoria, Claire Bargelès.
C'est un drapeau que l'on n'a pas l'habitude de voir à la balle, celui du Cap Vert qui couvre les épaules du capitaine et copropriétaire du Creole Star, Joël Almeida. Le club a fait beaucoup parler de lui lors de la conférence du Sahara le mois dernier à Dakar, en bien, notamment pour avoir battu le champion en titre, le Petro de Luanda, mais aussi en mal, des tensions au sein du groupe à cause de questions de logistique ont conduit au départ de joueurs internationaux et à la suspension pour 2 matchs d'un autre membre suite à une altercation. Pas question de se laisser ébranler, selon Joël Almeida.
Cela vous montre le caractère de l'équipe. Nous sommes résilients, même si on a dû se battre contre beaucoup de choses. Pas seulement en dehors, mais aussi sur le terrain. Le plus important, c'est qu'on soit resté ensemble et que notre équipe soit très solide. C'est dans notre ADN. Peu importe les critiques qu'on nous adresse, la mauvaise presse et tout ce qui est fait pour que l'on s'effondre, tout ça, on s'en nourrit. Alors ça peut bien continuer.
Le nouvel effectif s'est en effet montré solide et concentré pour son match de classement contre le FUS de Rabat en gagnant 91 à 88. Le Congolais Joël Tamboué s'est illustré comme meilleur marqueur de la rencontre pour son équipe.
Je pense qu'on est les underdogs. On va toujours venir ici et jouer dur et gagner le match.
Prochaine étape pour le Creole Star, ce sera ce dimanche en quart de finale face au Al Ahly Tripoli. Claire Bargelès de retour de Pretoria, RFI.
À Pretoria comme à Paris, pile 14h46.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 7 juin, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition sonore, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique qui fait sa une sur les groupes djihadistes au Sahel. La semaine de Jean-Baptiste Placa, marquée par la rencontre en RDC avant-hier entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Et puis un mot, une histoire, celui choisi par l'autrice et comédienne haïtienne Gaëlle Bien-Aimée, à découvrir dans une dizaine de minutes. La une de Jeune Afrique cette semaine donc consacrée à l'expansion des attaques de groupes armés djihadistes au Sahel. François Soudan répond à Paul Lancin Spinelli.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Paul.
Directeur de la rédaction de JIA, vous consacrez donc cette semaine un dossier à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel et vous expliquez qu'au Niger, au Burkina Faso et au Mali, les groupes armés emploient de plus en plus une stratégie pour étouffer les villes.
Alors, on assiste effectivement à une situation d'expansion continue de ces groupes dans les trois pays de l'AES, avec depuis une dizaine de mois une pression accrue sur les centres urbains. Il y a eu en septembre dernier, vous vous souvenez, l'attaque spectaculaire d'une caserne de gendarmerie d'un aéroport militaire à Bamako. Tout récemment, le 2 juin, c'est un camp de l'armée malienne à Tombouctou, ainsi que l'aéroport qui ont fait l'objet de raids coordonnés, suivis 2 jours plus tard par un attentat d'explosif à la périphérie de Bamako. La ville de Sikasso est sous couvre-feu depuis le 5 juin. À Kaï, non loin de la frontière sénégalaise, c'est une entreprise chinoise qui a été ciblée le 24 mai. La localité de Djibo, dans le nord du Burkina, qui compte aujourd'hui à peu près 200 000 habitants, elle a été occupée pendant une journée entière par le JNIM, c'était il y a un mois. Donc une pression urbaine qui s'accompagne d'une stratégie d'encerclement à distance des capitales avec la multiplication d'embuscades le long des axes stratégiques. Bon, certes, la capacité de ces groupes terroristes à tenir des villes au-delà de quelques heures, elle reste très limitée, mais elle accompagne, Paul, l'omniprésence diffuse de ces groupes djihadistes en zone rurale, leur expansion vers les pays voisins, ainsi que la montée en puissance de leur armement avec notamment l'usage de drones et tout récemment de drones kamikazes issus du marché noir libyen.
Et ces groupes terroristes, François, transforment aussi leurs sources de financement.
Alors, le financement des groupes terroristes a longtemps reposé sur 2 piliers, comme vous le savez, les rançons, d'abord issues des prises d'otages de ressortissants occidentaux. Elles ont rapporté à peu près 200 millions d'euros en 20 ans. Et la contrebande de cigarettes et de drogue. Aujourd'hui, ces deux sources sont quelque peu taries, faute de cibles lucratives pour les otages. Et en ce qui concerne le trafic, depuis la quasi-disparition de la composante maghrébine, en particulier algérienne, au sein des groupes terroristes, les groupes djihadistes ont donc dû réorienter leur financement, d'abord en détournant systématiquement la zakat, l'impôt religieux, en une sorte de machine fiscale organisée dans les zones qu'ils contrôlent. C'est un impôt qui est payable en argent, en bétail, en récolte, en taxes diverses, s'apparentant à du racket. Et autre source de financement, l'orpaillage. Vous savez, dans la zone aurifère de Nabao, à la frontière du Burkina, du Mali et du Niger, ce sont pas moins de 2000 orpailleurs qui travaillent ainsi pour le JNIM, Paul.
Et afin de convaincre au sein des populations de recruter, les djihadistes s'infiltrent via des relais locaux, en étant actif notamment auprès de prêcheurs salafistes au Mali, mais aussi au Sénégal.
Oui, dans les régions de Kaï au Mali, mais aussi de Matam et de Tambacounda au Sénégal, on a observé l'apparition de prêcheurs salafistes proches du JNIM qui exploitent des facteurs sociaux comme le système des castes ou les séquelles de l'esclavage par ascendance pour convertir des populations marginalisées à un islam qui est présenté un petit peu comme une sorte de théologie de la libération. Alors on sait par ailleurs que le JNIM a infiltré le commerce transfrontalier entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est une situation sur laquelle alerté tout récemment à propos du Sénégal le général Maïssa Selendiaï, qui est l'ancien aide-de-camp de Macky Sall et qui mettait en garde contre le risque d'affrontement à caractère ethnico-religieux comme observé ailleurs au Sahel avec ces mots, Paul, l'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres.
Merci beaucoup François Soudan.
Merci Paul.
Et on retrouve notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Plaquin.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans la rencontre de ce 5 juin entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, certains voient une victoire politique pour le chef de l'État congolais, tandis que d'autres soupçonnent un ralliement et parlent d'opposition, de connivence. Comment Jean-Baptiste, avec des appréciations aussi contrastées, se faire une religion ?
D'abord, une certitude, cette rencontre est un événement marquant de la vie politique congolaise. Mais avant de tirer des conclusions définitives sur les motivations de Martin Fayoulou, comme sur la sincérité de Félix Tshisekedi, les Congolais devraient observer calmement l'évolution de ce climat nouveau, en mettant une multitude de guillemets bien solides au substantif « rapprochement ». Le diagnostic posé par Martin Fayoulou se fonde sur des réalités que vivent douloureusement dans leur chair des millions de Congolais. Oui, la RDC est dans une passe difficile et même en danger. Oui, le sang des Congolais a trop coulé. Mais devant un tel tableau, les leaders politiques devraient-ils constater et laisser faire, en espérant voir le chef de l'État déstabilisé, disqualifié ou renversé ? Ou alors surmonter les rancœurs pour sauver l'essentiel qui peut encore l'être. Voici venir les jours où les hommes d'État ayant le sens du sacrifice et de l'intérêt général se distinguent à l'opposé des tacticiens de la politique qui rapportent tout au profit personnel qu'ils peuvent en tirer. Au regard du contentieux historique entre lui et Félix Tshisekedi, il a probablement fallu à Martin Fayoulou un certain courage pour oser une telle initiative.
Et justement, est-ce pour cela que certains le soupçonnent de se positionner pour le poste de Premier ministre.
Dans ce monde, beaucoup aiment prêter aux autres leur propre mesquinerie. Le souci de l'intégrité territoriale et des victimes du M23 ne devrait pas être irrémédiablement suspect. Il est facile pour chacun de désigner l'autre comme opposition de connivence, de se proclamer opposition de rupture à bonne distance de l'opposition armée. Mais certains se positionnent à leur manière en laissant la gangrène se propager avec le cynique et secret espoir que la déconfiture aura raison du pouvoir qu'ils combattent et leur profiterait. Comme Premier ministre, Martin Fayoulou, qui sait, serait peut-être moins incompétent que d'autres. Après tout, en 2018, lorsque son nom a surgi dans la présidentielle en RDC, les échos venant de Bamako vantaient ses qualités de dirigeant du temps où il officiait à la tête de la compagnie Exxon Mobil au Mali, où la jeunesse admirait son leadership stimulant. Il l'incitait à se surpasser, accroissait la productivité de tous et de chacun en payant mieux les salariés. Cela ne garantit évidemment rien, mais s'il était finalement l'exception qui confirmerait la règle de l'incurie généralisée.
En tout cas, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi accusent ouvertement Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23.
Joseph Kabila avait sous-estimé Félix Tshisekedi, qu'il espérait sans doute manipuler comme tant de politiques plus préoccupés par leurs intérêts tortueux que par le destin de leur peuple. Et si lui-même faisait partie du problème ? Avant 1997, il était totalement inconnu des Congolais. Puis en janvier 2001, du jour au lendemain, il s'est retrouvé aux commandes de ce grand pays au mépris de tout cadre constitutionnel. Son grand mérite était d'être le fils de Laurent Désiré Kabila, assassiné par une main aussi mystérieuse que les intérêts opaques des armées étrangères qu'il avait portées au pouvoir 4 ans plus tôt. À la faveur d'une rébellion expéditive, les Congolais ont donc eu le père 4 ans et le fils 18. en pure perte, comme les 32 ans de Mobutu. Et personne ne s'étonne de cette maladresse qui consiste pour un ancien chef de cet état-là à transiter pour regagner sa patrie par Kigali, capitale accusée de télécommander la rébellion du M23. Et il n'imagine pas que s'afficher avec les mêmes rebelles à Goma sous contrôle est une faute politique. Quel consternant désastre serait-ce si le sursaut auquel appelle Martin Fayulu devait consister à seulement redistribuer les places autour de la mangeoire sous les yeux ahuris d'un peuple congolais qui, depuis 6 décennies, résiste frénétiquement à l'avilissement.
La semaine de Jean-Baptiste Placa, à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est, vous reconnaissez le générique, un mot, une histoire.
C'est un mot vif, têtu, aussi rapide qu'un coup de cœur. C'est un mot insolent. C'est un mot qui frappe, qui réveille, pour ne pas dire ressuscité.
Elle est née à Port-au-Prince, en Haïti. Autrice, comédienne, humoriste et metteur en scène, Gaëlle Bien-Aimée est bien connue de notre radio. Et en 2022, elle a remporté le prix RFI Théâtre pour Port-au-Prince et Sa douce nuit. Membre de l'organisation féministe Neges Mahon, elle se définit comme artiviste. Un engagement qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot qu'elle a choisi de partager avec nous pour cet épisode.
Un mot, une histoire. Lucie Bouteloup.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mot fulgurance. J'étais avec une amie autrice, elle est libanaise, et on parlait de cette passion qu'on a en dépit de tout, en dépit de la guerre, cette envie de vivre, cette fulgurance, et ce mot est revenu comme un mot que j'utilise dans mes poèmes, et voilà, c'est un mot éclat, c'est un mot soleil, c'est un mot résurrection, c'est un mot je résiste, c'est un mot je suis debout, vertical. C'est un mot face à moi-même. C'est un mot lumineux, c'est un mot qui dit l'avenir, c'est un mot espérance.
Mais c'est un mot en même temps qui est chargé d'une certaine forme de violence, puisque c'est quelque chose, la fulgurance, qui frappe l'esprit de manière très rapide, très forte.
En fait, en créole, nous en Haïti, on dit, par exemple, quand quelqu'un va mourir, il y a un dernier sursaut de vie, on appelle ça transport en mort. Et la fulgurance, c'est ça. C'est ce truc qui arrive en nous-mêmes pour nous garder debout le temps qu'il faut. Et il faut ça aussi, face à cette violence extérieure, à ce tumulte extérieur. Il faut qu'on soit époustouflant. Il faut qu'on soit, voilà, dans la fulgurance.
L'inspiration, c'est la fulgurance pour vous?
Oui. En fait, quand il pleut beaucoup en Haïti et comme il y a beaucoup de problèmes de canalisation, il y a un avalas d'eau qui part, c'est aussi violent que ça. Ça vient avec les larmes, ça vient avec beaucoup de rire. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce sont des choses que je ne trouve pas tout le temps dans le processus de l'écriture.
Et puis avec la fulgurance, il y a aussi cette idée de quelque chose qui n'est pas attendu. Vous n'aimez pas ce qui est attendu?
J'aime bien quand ça arrive là où je ne l'attends pas. C'est ça aussi la fulgurance. C'est quand je suis derrière une moto, un taxi-moto à Port-au-Prince, et je vois quelque chose et j'ai envie d'écrire un long poème. Un poème urgent. Et que je prends mon téléphone et puis j'écris rapidement. Je suis derrière la moto, j'écris quelque chose. Ça vient, ça sort, ça gicle. Comme j'ai, voilà.
Selon le dictionnaire en ligne de l'Académie française, fulgurance désigne ce qui a l'éclat, le brillant de l'éclair.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française.
Et avec au micro de Lucie Bouteloup, l'autrice et comédienne haïtienne Gaëlle Bien-Aimée, actuellement en tournée aux États-Unis avec son spectacle « Qu'est-ce qu'on fait ?». Elle sera notamment le 28 juin à Fort Lauderdale en Floride. Chronique à retrouver comme toutes les autres sur RFI.fr, notamment dans la rubrique « Français facile ». Fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Benoît Raymond, rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations full day. Et en Afrique lusophone, vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. Une minute de pause et on revient sur RFI.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en tournée en France. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour une série de concerts. Le 20 juin à Marseille, le 26 juin à Paris au New Morning, le 28 au Festival Nuit Métis de Miramas. Plus d'infos sur le site rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.